ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du mardi 7 juin 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleau. Bienvenue à Ça vaut le détour, votre boîte à outils pour contourner les obstacles du handicap. Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux en utilisant le mot-clé CVLD ou sur Twitter, @canal_m, pour commenter l'actualité ou réagir aux propos de nos invités. Tout au long de la saison, l'équipe de Canal M a souligné le travail exemplaire d'individus et d'organismes qui ont à cœur la participation sociale des personnes vivant avec une limitation fonctionnelle. Pour souligner la Semaine québécoise des personnes handicapées, Ça vaut le détour vous propose de redécouvrir ces gens d'exception avec 3 émissions spéciales Coup de chapeau. Aujourd'hui, on va du côté de la Mauricie rencontrer Annie Hardy, qui a à cœur la santé des femmes. Propriétaire de la boutique de lingerie Belle de nuit, Belle de jour et fondatrice de Ajustez-moi, elle offre des visites à domicile pour faire l'ajustement de soutien-gorge aux femmes ayant subi une mastectomie, aux personnes âgées, aux personnes en perte d'autonomie et aux personnes à mobilité réduite. On vous présente le programme Triologie, démarré au mois de mars 2015 et qui a pour objectif de favoriser l'offre de logements adaptés dans Lanaudière. Et ça marche! L'organisme a le vent dans les voiles et une reconnaissance du milieu associatif autant que du milieu institutionnel. Il mérite donc un bon coup de chapeau. Les personnes ayant des limitations visuelles ou auditives sont souvent en retard sur l'offre culturelle québécoise du fait du grand manque d'accessibilité des produits culturels. On souligne 2 initiatives qui permettent de démocratiser le spectacle vivant. La troupe du théâtre L'Envol à Laval a mis au point le procédé de théâtrodescription, rendant l'expérience plus complète pour les personnes malvoyantes. Spectacle Interface produit des spectacles d'humoristes connus en langue des signes québécoise, rendant ainsi l'humour accessible à la communauté sourde. On a décidé de vous les présenter côte à côte, histoire de comparer les défis relevés par les interprètes, mais surtout pour constater le plaisir qui s'en dégage. Bonne émission. Même si le nombre de locuteurs de la langue des signes québécoise, la LSQ, atteint 50 000 personnes, les sourds sont souvent en retard sur la culture car leur offre culturelle est plus restreinte, particulièrement dans les spectacles performatifs, dans le théâtre, dans l'humour. Par contre, on a des gens qui travaillent à rendre ces spectacles plus accessibles, ces spectacles interface qui présentent au grand public des spectacles adaptés en langue des signes québécoise. Le théâtre et l'humour sont donc plus accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Et j'accueille en studio Martin Asselin, cofondateur de Spectacle Interface. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
C'est un plaisir.
D'abord, Spectacle Interface est né en 2009. Comment vous est venue l'idée de créer ça?
En fait, c'est les années juste avant 2009, on participait à type de bénévole à l'interprétation d'une pièce sur la rive sud de Montréal. Et c'est là un petit peu qu'on a comme goûté à ce que c'était du théâtre, parce que le métier d'interprétation, parce qu'à la base, on est des interprètes en langue des signes, nous amène un petit peu partout dans plein d'univers. Et justement, là, cet univers-là qu'on ne connaissait pas, le fait de s'y impliquer bénévolement, on y a goûté, puis là, on a vraiment aimé ça. Et de fil en aiguille, on s'est dit, mon Dieu, il me semble qu'il y a tellement... Parce que là, c'était vraiment au niveau amateur, on s'est dit, bien, peut-être qu'au niveau professionnel, ça pourrait être possible de le faire. Et là, à un moment donné, bon, la collaboration s'est éteinte avec cet organisme-là. Mm-hmm. Puis là, on s'est dit, pourquoi pas? C'est peut-être le temps d'y aller au niveau professionnel.
De faire le saut, justement, parce que souvent, les initiatives de rendre la culture accessible sont cantonnées dans les spectacles amateurs. Mais vous, vous spécialisez dans les spectacles professionnels grand public.
Tout à fait. Puis c'est ça qui est plaisant aujourd'hui, parce que comme vous le disiez, là, ça fait 5, 6, 7 ans là, qu'on existe. Et les maisons de production commencent à nous connaître. Les artistes commencent à nous connaître. Donc, le mot se passe dans les maisons de production. À partir du moment où on a fait un spectacle avec un artiste d'une maison de production, ça devient beaucoup plus facile de faire les approches au niveau des autres artistes. Et chose qui était vraiment très difficile au tout départ, parce que les premiers à nous avoir donné notre chance, c'est Jude Richard et Yvon Deschamps, là, que je connaissais pour avoir fait justement du bénévolat au niveau du Chaînon lorsqu'on en était la porte-parole. Et là, il me dit, hey, là, on s'était rencontrés par hasard quelque part. Puis il me dit, mais l'été prochain, moi, Yvon, Toulouse, on fait un spectacle à Joliette. Let's go, là, c'est là que ça part ton affaire. Et ben c'est ça. À partir de ce moment-là, il y a eu des... puis on a pu réserver la section avant de la salle puisque les billets n'avaient pas été mis en vente encore. Mm-hmm. Et c'est là que le tout a commencé. Là. C'est de se dire okay, comment on va s'appeler. Puis là, dans la communauté sourde, chaque organisme a son propre signe. Donc, inventer un signe qui nous définirait là, au niveau de la langue des signes. Et c'est là que ça a commencé.
Quand même, commencer avec Yvon Deschamps, Judy Richards, c'est du gros calibre tout de suite.
On était bien heureux, justement, parce qu'on avait le droit de capter les images. Puis ça a été nos premières images à montrer à d'autres producteurs pour leur dire, regardez, là, Yvon Deschamps, Judy nous ont fait confiance. Oser. L'artiste semble vouloir. C'est sûr que là, au niveau des fois des agents des maisons de production, au tout début, là, il y avait plus de réticence. Mais là, je pense que de fil en aiguille, là, ça va beaucoup mieux. Puis même, il y a une maison de production, pour ne pas la nommer, Faneuf, qui, la dame avec qui je fais affaire, m'appelle et m'a dit « Hey, il y a peut-être deux, trois artistes, d'après moi, qui seraient willing pour le faire. » Puis il y en a un, justement, qui est en rodage. Fait que là, ça commence à être le fun. Là. C'est ça. On en est rendu là.
Oui, c'est un bon défi. Justement, quelles étaient les résistances que vous rencontriez au début et qui semblent s'estomper maintenant?
C'est vraiment le oui, parce que je vous mentirais pas qu'il y a encore des artistes qu'on approche qui nous disent oui, mais bon, là, tu te rends compte que non, ça sera pas possible et tout ça. Puis je pense que, ben en fait, tout ça, ça aboutit pas. Mm-hmm. Alors, je pense qu'il y a des réticences parce que, bon, pour l'avoir vécu, quelquefois, par exemple, on fait une pièce de théâtre, donc ce sont deux comédiens. Il y en a un qui est vraiment super willing, l'autre qui est comme un petit peu plus, se demande si ça ne sera pas distrait parce que le fait de voir des signes, parce qu'on est quand même assez collé sur les personnages sur scène. Je pense qu'ils ont un peu d'appréhension, les artistes. Mais le plus gros, je dirais, là, de la problématique vient au niveau des maisons de production. Sauf que, comme je vous dis, là, on est rendu à 4-5 maisons de production avec qui on a travaillé depuis ces dernières années. Fait que ça commence à aller assez bien de ce côté-là.
Et est-ce que vous produisez vous-même les spectacles que vous adaptez? Vous avez du soutien d'autres types de boîtes de production?
En fait, c'est ça. Comment on fonctionne? Nous, on achète vraiment le spectacle. C'est comme, ils considèrent comme étant un corpo. Là. Mm-hmm. C'est la terminologie utilisée dans le milieu. Donc, on achète le spectacle et on s'occupe vraiment de tout le reste, là, tout le reste. Et là, il y a peut-être une petite nouveauté dans les dernières années. On a, parce qu'au tout début, quelquefois, lorsqu'on parlait de personnages ou des choses un petit peu plus crunchy, qui sont un petit peu plus longues à interpréter, puis comme là, c'est un spectacle puis que ça doit rouler, on avait des images qu'on imprimait ou on avait des petites pancartes sur lesquelles il était écrit des petites choses. Puis là, on s'est dit, bien, là, il faut passer à autre chose. Donc, là, on loue des téléviseurs 65 pouces qui sont sur scène, donc qui sont ajoutés à ce qui est le spectacle original. Et on a de monter dans un PowerPoint des images pré-setées. Alors, c'est sûr qu'il y a quelqu'un au niveau de la console qui fait apparaître les images en fonction d'où est rendu l'artiste là, dans son numéro. Et là, moi, je n'ai qu'à faire un pointé au niveau de l'écran pour faire comprendre au public sourd qui est dans la salle donc qu'on parle de ce personnage-là. Mm-hmm. Et vraiment, là, ça roule. Là. Vraiment, c'est une nouveauté que le public vraiment apprécie beaucoup.
Oui, parce que là, il faut le dire, c'est du live. Ça roule. Là,
oui,
quand,
tout à fait,
surtout dans des shows d'humour, quand on est habitué... en bon français, au delivery de l'humoriste, donc à son rythme. Parfois, c'est une heure de spectacle seul devant public.
C'est ça.
Puis vous êtes à côté à interpréter. Comment ça se passe, ce travail-là? Rencontrez-vous l'artiste avant pour qu'il s'habitue à avoir quelqu'un à côté de lui?
Pas tout à fait. En fait, nous, on a filmé le spectacle à peu près un an avant de le présenter à un public sourd. On l'a regardé au moins une cinquantaine de fois. Alors, on connaît tous les punchs, on connaît tous les mouvements. Puis, peut-être 2 à 3 mois avant le spectacle, on va le voir en salle, dans d'autres salles. Parce qu'en fonction de l'actualité, quelquefois, il y a des petites choses qui changent dans le spectacle. Alors, si on les prend en note, on vérifie auprès de la journée même auprès de l'artiste, là, à savoir si, bon, c'est tel numéro, là, tu as changé tel mot il y a 6 mois qui était utilisé pour un autre mot aujourd'hui, justement en fonction de l'actualité. Mais le gros, là, c'est vraiment nous qui faisons la préparation, là. Puis culturellement aussi, il y a des petites choses qu'on doit adapter dans une présentation. Là, par exemple, si on parle d'un personnage super populaire, mais que nous, on sait que dans la communauté, il n'est pas populaire. Mm-hmm. Là, on va essayer de trouver une autre image qui fait en sorte que l'objectif de la blague est vraiment la même, sauf qu'on a changé, nous. Puis ce qui est vraiment très drôle, c'est qu'on a beaucoup d'amis interprètes qui sont dans le milieu, donc qui, eux, entendent la blague de l'humoriste, mais nous l'avons interprétée, cette blague-là, et ils font « OK, on a vu la petite adaptation culturelle que vous avez faite, puis c'était vraiment chouette. »
Justement, on dit souvent que la LSQ est une langue en soi. Est-ce qu'il y a des choses ou des concepts qui sont plus difficiles à transmettre ou à traduire?
Oui, c'est ça, parce que ce ne sont pas tous les spectacles qui sont interprétables et présentables, parce qu'il y a des types d'humour où on joue sur les mots, par exemple... André Sauvé, c'est quelqu'un qui joue beaucoup sur les mots. C'est pas le genre de spectacle qu'on pourrait faire parce que le mot, par exemple, s'il y a un homonyme, par exemple, en deux mots, mais qui font référence à deux choses complètement différentes, mm-hmm. mais ces deux mots-là, au niveau de la manière de le signer, c'est pas vraiment la même chose. Donc, c'est pas des homonymes signés, bien qu'il existe des homonymes signés en langue des signes. Donc, c'est ça. Quand ça arrive trop souvent dans un spectacle... Là, on dénature le spectacle, donc on ne serait pas en mesure de bien rendre justice là, au public sourd, ce qu'est vraiment là, cette pièce de théâtre-là ou ce numéro d'humour-là. Donc, on n'est pas en mesure de pouvoir le présenter.
Tout à fait, et à la fois de dénaturer aussi le travail de l'artiste. Donc, c'est vraiment le but, c'est de pouvoir rendre accessible le travail de l'artiste et non pas de créer quelque chose de nouveau sur scène. Et quels sont, justement, est-ce qu'il y a d'autres critères? Est-ce que le nombre de personnages, par exemple, sur scène devient un enjeu?
On essaie de se limiter effectivement à quelques personnages parce qu'on doit comprendre qu'on double le nombre de personnes sur scène. Donc, c'est une
Absolument.
Pièce de théâtre où les comédiens sont au nombre de 3. Il y a 3 interprètes sur scène puisqu'on représente chacun un personnage. On est habillé vraiment comme notre personnage. Si notre personnage a de la barbe, on
même
a un petit peu de barbe. Oui, même costume, tout à fait. Puis, quelquefois, ça, c'est anodin, mais c'est le genre de choses quand on... la plupart des artistes ont un double de leur costume parce que, bon, ils prévoient une tournée assez longue. Mm-hmm. Sauf que vous comprendrez que quand je fais Philippe Laprise, on n'a pas tout à fait la même shape. Là, je m'excuse, Philippe, mais t'as maigri récemment, c'est très, très bien. Mais tout de même, c'est ça. Donc, tu dois faire des recherches au niveau de l'habillement pour essayer de retrouver une chemise qui correspond pas mal à celle que l'humoriste... met sur son dos. Et donc, c'est ça. Effectivement, oui, on s'habille comme eux. Puis c'est vraiment super chouette parce que plus ça va, plus les artistes avaient entendu parler de nous. Puis il y a des collaborations qui s'établissent sur scène. Donc, quand il va parler de telle blague, il me regarde puis il me voit faire cette blague-là qui la manière... Quand on l'a fait en langue des signes, c'est vraiment super cocasse parce que le mouvement est très, très drôle. Mm-hmm. Donc là, l'artiste embarque puis là, il y a... On décroche complètement de son texte à lui pour jouer un petit peu sur ce que je suis en train de faire en langue des signes. Puis ça fait vraiment rire le public.
C'est vraiment intéressant. Il nous reste quelques minutes. Je voulais qu'on parle de votre prochaine production qui va être présentée en juin, le spectacle « Maudit job » avec François Chénier et Mathieu Graton.
Oui, donc c'est ça, deux comédiens, en fait deux employés d'une entreprise de télécommunication au niveau du service à la clientèle. Donc c'est ça, comme je vous disais, dans le fond ils sont deux, le fait que ce soit deux, c'est beaucoup plus facile pour nous. Et c'est ça, c'est le 11 juin au Collège Annecyc à 19h30 là, qu'on présente ce spectacle-là. On en présente des spectacles environ là, 2 par année, donc ça c'est celui qu'on présente au début de l'été. Et on n'est pas fixé encore là, pour un spectacle cet automne, mais on y travaille très fort. Là, on en a 2-3 en préparation, 2-3 humoristes et comédiens qui sont intéressés à travailler avec nous.
Et est-ce qu'il faut avoir un talent? Votre bagage est davantage celui d'un interprète. Est-ce qu'il faut avoir un talent pour des expressions en théâtre ou est-ce qu'il faut comprendre ce contexte de mise en scène, de scénographie?
Oui, c'est sûr. Le plus gros de la compétence doit être au niveau de ta compréhension de la langue des signes, de comment tu possèdes la langue des signes. Mais effectivement, là, il y a une grosse partie qui fait en sorte que c'est drôle sur scène parce que tu as une mimique, une gestuelle vraiment artistique et théâtrale qui mm-hmm. fait que tu comprends très bien le sens de ce qu'il dit oralement. Donc, tu dois vraiment le passer d'une façon gestuelle et expressive au public pour qu'il puisse comprendre vraiment la blague comme elle est dite au niveau oral.
Ça nous donne vraiment envie de voir ces spectacles. Spectacle Interface, j'accueillais Martin Asselin, cofondateur, compagnie que vous avez cofondée avec Joël Fortin.
Tout à fait.
Elle n'est pas là aujourd'hui, mais on la salue. Merci beaucoup et juste le temps de dire que nous ferons tirer une paire de billets pour la représentation du 11 juin. Vous pouvez commenter sur la publication Facebook d'aujourd'hui sur la pièce de théâtre ou manifester votre intérêt par courriel à canalm@vuesetvoix.com. Merci, Martin Asselin.
Merci bien à vous.
Les auditeurs de Canal M, il y en a plusieurs qui sont habitués avec le concept de la vidéo-description qui, en fait, raconte les différents éléments visuels qu'on ne peut pas voir lorsqu'on est aveugle ou amblyope, ce qui se passe à la télévision et au cinéma pour s'assurer qu'on a tous les éléments de l'intrigue. On peut aussi transporter ce concept au théâtre et ça donne la théâtro-description. J'ai vraiment hâte de découvrir tout sur ce concept. Et c'est l'Académie théâtrale L'Envol de Laval qui sont les premiers à mettre de l'avant la théâtrodescription. J'accueille en studio le président de l'Académie, M. Sylvain Noël. Bonjour.
Bonjour, mademoiselle.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, quelques mots sur L'Envol, qui est une troupe de théâtre amateur. Depuis quand est-ce que vous existez?
Exactement. Nous existons depuis le 20 août 2007, donc nous allons fêter notre 9e anniversaire, exactement, cette année. Et on est un organisme de loisirs qui permet aux résidents lavallois de pouvoir vivre leur petit moment de gloire sur la scène une fin de semaine par année.
Une fin de semaine par année, donc on parle d'une production par année.
Oui.
Et à quel moment est-ce que vous avez ajouté la théâtrodescription à vos représentations?
C'est malheureusement, lors d'un événement malheureux, ma sœur a perdu la vue au mois d'avril 2012 et en tant qu'accompagnateur, mon frère et moi, on s'est aperçu qu'il n'existait absolument rien au niveau accompagnement narratif au théâtre. Alors, puisqu'on avait déjà cette troupe de théâtre-là à Laval, c'était une troupe familiale à ce moment-là, nous avons décidé de tenter de développer ce concept-là. On ne savait pas à quoi s'attendre du tout. Et finalement, ça a fait boule de neige et les collaborateurs que nous avons maintenant nous permettent d'offrir un service de théâtrodescription d'excellente qualité aujourd'hui.
Justement, on parle de vidéodescription qui est tout de même connue à la télévision, au cinéma. Quels éléments vous avez pris pour les mettre au théâtre? Comment est-ce que cette adaptation-là s'est faite?
L'adaptation s'est faite, oui, ça peut sembler similaire à ce qui se fait à la télé, mais c'est tellement différent. Je ne sais pas, comment se fait la vidéodescription à la télé. J'ai eu la chance de rencontrer une seule fois des collaborateurs de la CET post-production, qui font la vidéodescription. Mais le concept est tellement loin, parce que nous, c'est live, c'est pas enregistré. Donc, nos narrateurs doivent suivre les comédiens dans leur répétition pour très bien connaître la pièce. Ils doivent préparer leur texte narratif, un petit peu comme ça se fait à la télé. Mais le concept est tellement loin, on est sans filet. Si les comédiens sautent une page, il faut que le narrateur saute une page.
Donc, il faut vraiment être extrêmement attentif. C'est vraiment un complément au dialogue qui se passe sur scène. Est-ce qu'on lit les didascalies?
Est-ce que c'est, si on prend le scénario à la télé ou au cinéma, est-ce que là, est-ce que vous mentionnez aussi tous les éléments de décor, l'éclairage?
Ce qu'on fait, c'est que oui, de prime abord, avant que la pièce commence, les personnes ayant des limitations visuelles sont en mesure d'entendre le descriptif des décors qui tournent en boucle, c'est enregistré. Et là, à ce moment-là, ils peuvent se faire une image mentale des décors. Pour le reste, c'est sûr que d'une pièce à l'autre, les éléments narratifs sont extrêmement différents, comme dans la production de la semaine prochaine. Il n'y a pas beaucoup de déplacements, alors c'est beaucoup plus les émotions que nous allons décrire. Mm-hmm. Mais c'est différent d'une production à l'autre.
Vous décrivez le non-verbal des comédiens, des gestes? Ou...
Quand c'est possible,
quand on a le temps.
Ben oui, parce que comme à la télé, on essaie le plus possible de pas... Le narrateur essaie de ne pas empiéter sur le dialogue des comédiens.
Et la plus grande difficulté, c'est justement cet aspect d'être en direct, finalement.
Oui.
Comment est-ce que... Qui fait la narration, premièrement? Est-ce que ce sont d'autres comédiens expérimentés? Ce sont des bénévoles? Comment est-ce que vous formez ces gens-là?
Ben, c'est des gens, prioritairement, qui ont à cœur de rendre service aux personnes non-voyantes, et ils y tiennent. Nous les formons, oui, avec l'expérience que nous avons acquise au cours des trois dernières années. Mais c'est d'abord et avant tout des gens de cœur, des gens qui veulent rendre service. Et à ce niveau-là, bon, on a la chance d'avoir parmi les pionniers comme narrateur, M. Hans Brouillette, qui est relationniste et porte-parole de la Corpic et qui a déjà une carrière radiophonique très bien établie. Donc, c'est notre pilier comme narrateur. Mais là, comme celle-là, il y en a d'autres qui s'ajoutent parce qu'on a de plus en plus de demandes.
Et ça se développe. Comment est-ce que ça se passe sur le plan technologique? Parce qu'il faut le dire, ce sont seulement les personnes qui en ont besoin ou qui le désirent, du moins, parce que ça peut être aussi pour seulement augmenter le volume pour mieux entendre les comédiens sur scène. Mais donc, il n'y a pas un comédien sur le côté de la scène et tout le public entend. C'est vraiment un service précis.
Absolument. Et à ce niveau-là, on a la chance là, d'avoir un système qui est tout neuf, qui nous a été vendu par la firme Sennheiser, la firme allemande. Et la narration de notre narrateur, la voix de notre narrateur, est retransmise via tous tes téléphones intelligents. C'est la beauté du système. N'importe qui a un téléphone intelligent, Android, iPod, iPhone, iPad, peut se brancher sur notre système en ayant préalablement téléchargé l'application Sennheiser Mobile Connect. Et une fois rendu en salle, tout ce qu'il fait, c'est qu'il se branche, il met ses écouteurs et on entend la voix du narrateur, tout simplement. Et pour les personnes malentendantes, bien, ils ont le contrôle complet de la voix des comédiens. Si c'est pas assez fort, ils montent le volume, mais sans voir la voix du narrateur.
Mm-hmm. Et sur place, est-ce que vous avez des appareils pour ceux qui n'ont pas de téléphone intelligent?
Absolument. On a 25 iPods que l'on peut prêter. On privilégie l'autonomie et les personnes non-voyantes et malentendantes, eux aussi apprécient ne pas avoir d'appareil à emprunter. Donc, de plus en plus, les gens téléchargent l'application sur leurs propres appareils, ils arrivent en salle, ils sont complètement autonomes.
Toute cette technologie engendre des coûts. Comment est-ce que vous financez votre projet?
Ben écoutez, le concept a une telle popularité qu'à venir jusqu'à maintenant, c'est la Ville de Laval, prioritairement, qui nous a financé le système Sennheiser Mobile Connect via la Conférence régionale des élus, qui est en toute fin de vie, malheureusement, ainsi que le Centre local de développement, qui est en fin de vie eux aussi. Mais au-delà de ça, le gouvernement du Québec aussi, via le soutien à l'action bénévole, via les différents ministères, le ministère de la réadaptation, le ministère des Affaires municipales, les élus provinciaux de Laval cotisent et supportent les coûts qui sont liés là, jusqu'à maintenant liée à la théâtrodescription.
Il y a une belle mobilisation de la ville de Laval, entre autres, pour rendre ça accessible à ses citoyens, à son public. Est-ce que vous avez des demandes d'autres troupes ailleurs, dans d'autres régions, qui souhaiteraient implanter le même système?
Absolument. Le concept, vraiment, connaît une effervescence. Nous avons eu une première collaboration l'automne dernier avec la troupe Talia de la Place des Aînés. Et cette première collaboration-là nous a amené d'autres demandes. La Ville de Québec, la troupe L'Imagerie de Québec tient à ce qu'on adapte sa pièce de l'an prochain. On a le Festival des Molières à Laval qui vont célébrer la Semaine québécoise des personnes handicapées. Dans la première semaine de juin, notre production va être présentée en théâtrodescription au Festival des Molières. On a le Festival de Victoriaville au début juillet aussi qui tient à présenter des pièces en théâtrodescription dans la belle région de Victoriaville. Et un partenariat inespéré, inattendu, nous avons conclu une entente avec AlterGo. AlterGo va se servir de notre système pour commenter la finale du Hockey Luge à l'Arena Howe-Morenz le 1er mai prochain. Ça va permettre aux personnes non-voyantes de pouvoir s'imaginer ce qui se passe sur la glace. Ça, c'est un partenariat vraiment inespéré. Donc, il faut absolument que vous soyez là pour vivre cette expérience-là.
Justement, cette finale qui aura lieu dans le cadre du défi sportif AlterGo.
Absolument.
Justement, c'est tout un défi. Là. On part quand même du théâtre. Il y a des répétitions, il y a des comédiens, on a un texte sur lequel se fier. Et là, le hockey luge, c'est devenir des commentateurs de hockey.
Absolument, c'est carrément ça. Le principe existe quand on écoute un match de hockey à la télé, à la radio. C'est de la théâtrodescription pour un match de hockey. Alors, AlterGo va se servir de notre système pour faire la même chose qui se passe au Centre Bell pour les matchs du Canadien.
Tout à fait, et qu'on peut écouter à la radio aussi. Et donc,
absolument,
on n'a pas besoin, on sait quand même qu'est-ce qui se passe sur la glace, même si on l'a seulement dans nos oreilles. Vraiment fascinant comme procédé. On espère que ça va se démocratiser et se retrouver dans d'autres compagnies de théâtre aussi. Merci beaucoup de contribuer à l'inclusion sociale des personnes handicapées via votre troupe. En terminant, si on va avoir plus d'informations sur les productions qui s'en viennent, où on va?
Vous venez sur le site de l'Académie théâtrale L'Envol de Laval, le www.théâtrelenvol.ca. Et en même temps, bien, vous allez pouvoir aussi profiter de notre site Internet pour télécharger l'application sur votre téléphone intelligent.
Merci beaucoup, Sylvain Noël. Je rappelle que vous êtes président de l'Académie théâtrale L'Envol de Laval. Vous avez mis de l'avant ce concept de la théâtrodescription. Vous êtes la première troupe de théâtre adapté au Québec.
Et la seule.
Et la seule. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci, mademoiselle.
Sur les ondes du canal M, vous écoutez Ça vaut le détour avec Maxime V. Pomerleau.
Toujours à Ça vaut le détour, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux avec le mot-clé qui est CVLD ou sur Twitter, @canal_M. On va du côté de la Naudière aujourd'hui pour parler du programme Triologie qui favorise l'offre de logements adaptés. On sait que c'est une des problématiques qui est criante dans toutes les régions du Québec et donc on regarde un peu du côté de la Naudière qu'est-ce qui se passe. Monsieur Pierre Lafontaine, agent de concertation à la table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de la Naudière. Bonjour.
Bonjour, Madame Pomerleau.
Donc, tout d'abord, présentez-nous ce projet Triologie.
Le projet Triologie, dans le fond, c'est un projet qui a été initié par la table de concertation en collaboration avec différents partenaires du milieu, dont on avait mis en place un comité sur l'hébergement. C'est un projet qui a été financé par le Centre intégré de santé et services sociaux, anciennement l'Agence de la santé. C'est un projet qui visait, dans le fond, à faire du pairage entre des personnes avec des besoins de soutien à domicile et des propriétaires ou des entrepreneurs, des gestionnaires qui étaient intéressés, dans le fond, à offrir, à ouvrir couvrir une plus large gamme de logements sur le territoire de la Naudière. Donc, on a commencé ça en 2014 en faisant un portrait de l'hébergement, de ce qui existait ici en région. Et par la suite, on est allé avec un projet qui a été, c'est un projet concerté qui a été mis en place de façon plus pointue de pairage entre des usagers et des propriétaires. Donc, ça visait tant la découverte de logements déjà accessibles ou adaptés que des logements qui étaient adaptables. Mm-hmm. Donc, c'est une offre assez large là, qui a été réalisée ici en région.
Et quelles lacunes, justement, le projet Triologie vient-il combler dans l'offre de logements?
Entre autres, ce qu'on déterminait, c'est qu'il y avait des besoins de décentralisation, dans le fond, dans la communauté, de façon à rendre l'expérience des usagers plus normalisante, plus intégrante dans le milieu. Et on voulait aussi compenser l'insuffisance de soutien à domicile qui existait. Donc, avec les sommes qui ont été rendues disponibles, on pouvait se permettre d'optimiser, dans le fond, tant l'offre que les services de soutien. Donc, tant en collaboration avec des ressources communautaires du milieu, avec des coopératives, des entreprises d'économie sociale en soutien à domicile. Donc, on venait comme centraliser l'ensemble de l'offre pour permettre aux personnes, dans le fond, de s'intégrer en logement plus facilement et plus rapidement.
Et comment fonctionne le programme? Est-ce que vous fournissez une banque de locataires potentiels à un propriétaire ou vice-versa?
Je dirais que ça va dans les deux sens. Tant qu'on a autant répertorié des logements adaptés ou adaptables sur le territoire que des personnes qui étaient en besoin. Puis souvent, les personnes vont nous appeler, soit à la table de concertation ici ou dans différentes ressources, proviennent de l'extérieur de la région, veulent venir dans la région, se demandent où se loger. Donc, on a tant une banque d'usagers potentiels qu'une banque de propriétaires, de gestionnaires ou même de contracteurs. Donc, en faisant ça dans les deux sens, ça permettait, dans le fond, beaucoup d'optimiser, dans le fond, les services de référence.
Est-ce qu'on est en mesure de dresser un portrait un peu du type de personnes qui viennent demander les services de Triologie?
Bien, disons que pour être admissible à Triologie, il y a certains critères, naturellement. Il faut que la personne requiert un minimum 10 heures de soins à domicile, de services à domicile par semaine. De 10 heures, le maximum qu'on donne à Triologie, c'est 25 heures semaine. Des personnes âgées de 18 à 65 ans. Donc, c'est le profil des personnes qui seraient admissibles à la Triologie.
Et vous avez eu une vingtaine de demandes en 2015.
Il y a eu plusieurs demandes, 20 personnes qui ont été rencontrées, dans le fond, qui ont été évaluées. Mm-hmm. Actuellement, il y a 6 personnes qui ont été intégrées en logement déjà. Et je dois dire que, selon les chiffres qu'on a eus la semaine dernière ou il y a 2 semaines, la liste d'attente s'allonge. Donc, on est vraiment rendu, le service semble implanté et il est en développement déjà, puis ça fait à peine un an.
Quelle région est-ce que vous couvrez particulièrement?
Bon, dans le fond, le projet vise l'ensemble de la région de la Naudière, sauf que, dans un premier temps, je dirais qu'on est plus concentré vers le nord de la région, périphérie du Grand Joliette. Il y a des logements là actuellement à Joliette, à La Valtrie, à Saint-Lin, à Saint-Calix. Donc, il y a quand même, on développe le plus large possible. Mais éventuellement, ça va s'étendre à l'ensemble de la région. Le projet a été pensé pour desservir l'ensemble de la région. Mais c'est certain que dans un premier temps, avec les moyens qu'on a, on y va étape par étape.
Vous parlez tout de même de liste d'attente, bon, qui s'allonge plus on connaît le service. Par contre, ça bat des records au niveau du placement par rapport à beaucoup d'autres listes d'attente. Qu'est-ce qui explique le succès de l'initiative?
Moi, je pense que le succès de l'initiative s'explique d'abord et avant tout par l'ancrage dans le milieu, par la concertation qui est alentour de ce projet-là. Souvent, il y a des programmes qui sont mis en place par de façon centralisée. Nous, avec le comité d'hébergement qu'on a mis en place, ça nous permet d'être branchés avec plusieurs ressources de l'ensemble du territoire. Ça, je pense que c'est déjà un gage de réussite puis de popularité. Parce qu'on sait que déjà, les personnes qui sont en besoin de soutien à domicile sont déjà en lien avec les associations du territoire, avec les organismes du milieu. Donc ça nous permet, dans le fond, un rayonnement par l'intérieur, je dirais, plutôt que par l'extérieur.
Mm-hmm. Est-ce que Triologie finance l'adaptation des logements?
Triologie ne finance pas l'adaptation des logements comme tel, c'est la Société d'habitation du Québec. Par contre, Triologie accompagne dans toutes les étapes du développement des logements, tant les propriétaires, les gestionnaires ou les contracteurs, que les personnes elles-mêmes. Donc, on peut aller même jusqu'à faire des demandes de financement du début à la fin. Donc, les propriétaires ne sont pas démunis, ça ne devient pas une charge supplémentaire à leurs travaux habituels. Donc, je pense que c'est là, entre autres, que le projet Triologie se démarque vraiment des initiatives qui étaient déjà existantes ailleurs. Parce qu'il faut mentionner que le projet Triologie, c'est unique au Québec.
Mm-hmm. Oui, puis on espère que ça donne l'idée à d'autres de faire la même initiative dans leur région.
C'est aussi ce que nous autres, on aimerait, parce que dans le fond, quand un projet fonctionne à une place, pourquoi pas l'exporter ailleurs? Le modèle est existant, et si le modèle est gagnant, pourquoi pas se l'approprier?
Mm-hmm. Quel est l'avantage pour les propriétaires?
L'avantage pour les propriétaires, bien, il y a entre autres, moi je mentionnais tantôt l'accompagnement à partir pour faire adapter un logement. Il y a aussi le fait que les personnes, on les a répertoriées, donc c'est des personnes qui sont prêtes à entrer dans les logements. Je pense qu'il y a, ce côté-là. Il y a aussi dans l'accompagnement, vous savez, l'adaptation d'un domicile, parfois on a les meilleures intentions du monde, mais on le fait un peu n'importe comment, ce qui fait que souvent on pense qu'un logement est adapté, mais dans les faits, il ne l'est pas. Donc, ça évite aux propriétaires, dans le fond, d'encourir des coûts pour rien et de faire des travaux qui ne seraient pas nécessaires. Donc, je pense que c'est beaucoup plus l'information. Puis on essaie aussi de rendre ça accessible dans la... C'est pas dramatique, c'est je pense qu'on offre un service plus large et pour les propriétaires, c'est définitivement un avantage aussi.
Et quand on parle de propriétaires, à quel type d'habitation on fait référence? Est-ce que c'est autant maison, le bloc de logement, condo?
Je dirais qu'actuellement, c'est plus des logements. Par contre, il n'y a pas de limite. Ça peut être plus élargi à des maisons ou encore à des condos. Par contre, il y a toute la question de l'accessibilité financière aussi. Donc, mm-hmm. C'est plus des logements. Actuellement, les logements qu'on a qui font partie du projet, c'est plus des 3,5, des 4,5 pour des personnes seules souvent ou une personne qui va vivre avec son enfant ou un couple. Donc, c'est plus dans ce sens-là là, pour l'instant, là, le développement s'est fait plus à ce niveau-là. Par contre, il n'y aurait pas de limite au type d'habitation qui serait disponible.
Puis, pour les propriétaires qui seraient intéressés à participer au programme, comment on prend contact avec vous?
À ce moment-là, nous, la table de concertation, on a dans le fond mis en place le projet pilote. Ça a été transféré aux maisons d'à côté qui offraient déjà de l'hébergement communautaire dans le milieu ici à Joliette. Donc, on téléphone directement aux maisons d'à côté au 450-271-6658. Ou encore, on peut aussi les rejoindre, rejoindre Triologie à l'adresse courriel trio, T-R-I-O, trait d'union, logis, L-O-G-I-S, à commercialoutlook.com.
Monsieur Lafontaine, oui. Vous disiez que c'était, entre autres, un projet pilote,
oui.
Donc mis en place en 2014. C'est tout récent. Est-ce que vous êtes assujetti à des subventions? Est-ce qu'il y a un risque qu'on voit cette initiative-là s'éteindre ou, au contraire, on y va pour du long terme?
Écoutez, on a eu une rencontre la semaine dernière avec des gens du Centre intégré santé et services sociaux et je pense que tant eux que nous, on est victimes de notre succès. Dans la mesure où c'était quand même une somme de 180 000 $ par année, plus ou moins, là, mm-hmm. qui avait été octroyée pour la phase initiale d'implantation. Mais ces sommes-là devraient devenir récurrentes. Dans le fond, c'est en démarche. Donc, ça devrait être un projet qui dure dans le temps. Et même que les discussions que j'ai eues avec des partenaires du Centre intégré de santé et services sociaux mentionnaient qu'il y avait peut-être possibilité même qu'on développe davantage. Alors, je pense que quand un projet est gagnant, tous les partenaires, peu importe que ce soit gouvernemental, que le milieu lui-même, on est gagnant à développer davantage.
En terminant, si vous aviez des conseils à donner à d'autres organismes ou d'autres tables de concertation dans d'autres régions qui voudraient démarrer ce projet-là, ça serait lesquels?
Je pense que la formule gagnante repose d'abord et avant tout sur la concertation. Donc, si jamais il y avait des personnes dans d'autres territoires qui voudraient développer un projet du genre, je dirais commencer par asseoir des partenaires qui couvrent l'ensemble de votre territoire ensemble pour être capable de le développer en fonction des besoins réels des différents milieux. Parce qu'on sait que même à l'intérieur d'une région, peu importe le territoire, c'est différent d'une MRC à l'autre. Donc, je pense que le gage de réussite, ça repose vraiment sur la concertation.
Pierre Lafontaine, vous êtes agent de concertation à la table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de Lanaudière. Merci beaucoup d'avoir parlé aujourd'hui de cette belle initiative de Triologie qui favorise l'offre de logements adaptés dans Lanaudière.
La nuit est pas vraiment finie, assez juste cachée dans le matin. C'est un record, 12 ans et demi, me semble que j'ai rêvé à rien. J'ai déjà sauté devant le train, ça traque, jamais frenché avec la langue. Des mots qui filent entre les doigts, ballon chasseur dans l'estomac. C'est moi. Les petits gars qu'on voit dans les films, ils ont l'air d'avoir toutes les réponses. Moi, chez nous, je bâtis des villes, je gagne des courses, puis je tue des monstres. Je gagne des courses, puis je tue des monstres. Chaque fois plus vieux, quand il vient me chercher pour deux soirs. Dès qu'il parle, ça sonne comme un jeu, mais moi j'y crois plus, ces histoires. Tellement plus le goût d'avoir hâte, tellement bon pour faire semblant. Remettez-moi dans la boîte, demandez un remboursement. Maintenant, les petits gars qu'on voit dans les films, ils ont l'air de faire des belles rencontres. Moi, chez nous, je bâtis des villes, je gagne des courses, puis je tue des monstres. Je gagne des courses, puis je tue des monstres. Surtout pas que ma mère entende les cris des filles nues dans ma chambre. Leurs paupières mauves battent des ailes, y en as-tu pour vrai des comme elles? Je voudrais recommencer toute ma vie, mais je peux pas dire ni où ni quand. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, l'œil de la nuit me regarde tout le temps, tout le temps. Un jour je vais m'acheter des missiles que je contrôlerai avec ma montre. Et j'irai au-dessus des. Et j'irai aimer les monstres. Un jour je vais m'acheter des missiles que je contrôlerai avec ma montre. Et j'irai au-dessus des villes. Et j'irai. Et
j'irai aimer les monstres.
Annie Hardy de Ajustez-moi, qui offre un service d'ajustement de soutien-gorge à domicile. Bonjour, Madame Hardy.
Bonjour.
Donc, vous êtes fondatrice et propriétaire de Ajustez-moi. À qui s'adresse le service?
Bien, à toutes les femmes, que ce soit des femmes en perte d'autonomie, des personnes âgées, des femmes qui ont cancer du sein, même des femmes qui sont à la maison, qui n'ont pas d'auto pour sortir, peu importe. Là, c'est toutes les femmes en général qui couvrent tout le territoire de la Mauricie, Victoriaville, je peux aller jusqu'à Drummondville, Donnacana, Berthierville et Latuque.
Oui, parce que vous, il faut le dire, vous êtes basée à Trois-Rivières.
Oui, exactement.
Exact. Vous êtes déjà propriétaire d'une boutique Belle de jour, Belle de nuit.
Belle de nuit, Belle de jour.
Oh. J'ai confondu. Belle de nuit, Belle de jour, vous offrez des services liés notamment à la mastectomie, aux prothèses mammaires. D'où vient l'idée d'offrir le service à domicile?
Écoute, ça fait plusieurs années que j'y pensais. Et dernièrement, dans la dernière année, en 2015, j'ai eu trois personnes proches de moi, trois femmes qui ont été touchées par le cancer du sein, dont une de mes employées et deux de mes amis très proches qui ont eu l'ablation complète du sein. Et je trouvais qu'ils me parlaient de la façon qu'elles étaient démunies face à tout ce que ça comportait. Parce que oui, il y a les infirmières pivots à l'hôpital qui donnent des renseignements, tout ça, mais ils ont des feuilles. Ils peuvent pas favoriser un magasin en particulier pour envoyer les femmes parce que, bon, c'est gouvernemental, puis ils peuvent pas favoriser un magasin en particulier. Mm-hmm. Par contre, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Ça n'a pas de bon sens. Les madames sont vraiment devant des... Ils n'ont pas de ressources directement. Fait que je suis allée voir les infirmières pivots et j'ai fait le tour là, de tous les hôpitaux dans la région. Et je me suis rendu compte que même les infirmières pivots étaient mal informées au niveau des produits qu'on avait disponibles, que ce soit des soutiens-gorges post-opératoires, des camisoles post-opératoires qu'on peut mettre les drains avec les coussinets aussi de remplacement pour le sein qui est manquant. Donc, je trouvais que c'était vraiment une partie là, qui manquait là, dans notre formation à nous. Là.
Et quels sont les besoins spécifiques qu'une femme qui a subi une mastectomie peut avoir?
Bien, d'abord, ils ont besoin, comme je vous disais, de la camisole post-opératoire qui va contenir les pochettes pour mettre les drains. Parce que présentement, s'il n'y avait pas ça, fallait qu'il accroche ça avec des épingles à couche après une camisole. Et c'est sûr que la camisole, après, est plus portable parce que, bon, ça fait des gros trous, tout ça. Et en ayant la camisole, ben ils peuvent dormir avec. Ils peuvent avoir aussi le coussin qui est pour le sein qui est manquant. Mm-hmm. Qui peuvent porter à l'intérieur de la maison quand ils ont de la visite, n'importe quoi. Ils peuvent mettre ça en dessous de leurs vêtements de nuit, puis ça paraît pas. C'est vraiment très pratique pour elles. Et ensuite de ça, un coup que la chimiothérapie, que la radiothérapie est faite, à ce moment-là, ils peuvent venir en boutique ou je peux me rendre à domicile et on peut ajuster la prothèse mammaire pour remplacer le sein manquant. Parce que c'est pas tout le monde qui va faire la reconstruction mammaire.
Non.
Donc, c'est ça. Fait que on est là pour ajuster la prothèse là, qu'ils ont besoin avec la grandeur qu'ils ont besoin.
Et on parle vraiment d'une situation spécifique que les femmes peuvent vivre. Quels sont les besoins des personnes qui sont en perte d'autonomie ou qui ont des contraintes à la mobilité?
Bien souvent, c'est l'ajustement de soutien-gorge régulier. J'en ajuste plusieurs dans les résidences de personnes âgées. Ils n'ont pas de véhicule pour se véhiculer. Souvent, faut qu'attendre l'aide des enfants pour pouvoir se véhiculer. Puis c'est avec avec ce qu'on vit aujourd'hui, la vie va tellement vite que souvent, ils veulent pas déranger, ils veulent pas être obligés de demander. Donc, souvent, on m'appelle. Puis, moi, je me rends directement à la résidence. Les coûts de transport, dans le fond, sont de 25 $. C'est symbolique, dans le fond, comme coût. Là. Mm-hmm. Je charge 25 $. Puis après ça, ben, ils ont le prix à décharger, à débourser, c'est-à-dire pour le soutien-gorge qui ont besoin. Puis souvent, ben, c'est 2-3 soutiens-gorge parce que veut pas dans les services de personnes âgées, ils prennent pas le temps de mettre les soutiens-gorge dans les petits filets puis dans pour pouvoir mieux prévenir l'usage si on veut du soutien-gorge. Donc c'est ça. Je me rends en résidence, puis je vends des soutiens-gorge neufs là aux résidentes.
Est-ce qu'il y a oui, allez-y.
C'est bien apprécié à venir jusqu'à date. Là, on a beaucoup de demandes.
Bien, ça joue un rôle quand même important au niveau du confort. Même qu'on sait qu'il y a plusieurs femmes qui font de l'exercice, par exemple, et qui sont même mal informées sur le type de soutien qu'elles devraient adopter.
Oui, exactement. Si vous voyez, oh mon Dieu, on peut en parler. La mode est au jogging. Hein? Mm-hmm. Et je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui courent avec deux soutiens-gorge un par-dessus l'autre. Ça, c'est à ne pas faire. Parce que on peut avoir, on a des vaisseaux qui passent dans les seins. Et souvent, s'il y a trop de mouvement, ça peut éclater. Et ça peut apporter d'autres problèmes. Donc, c'est très important d'avoir un soutien-gorge qui est fait pour faire du sport. C'est pas pour rien qu'on vend des soutiens-gorge de sport sur le marché. C'est fait exprès parce que ça fait une compression au sein. Par contre, faut pas le porter toute la journée. Un soutien-gorge de sport, c'est fait pour faire du sport. Donc, on le porte une heure ou deux. Puis ensuite de ça, on met un soutien-gorge régulier, là.
Est-ce
ça,
qu'il
c'est
risque,
super important.
Est-ce que, justement, est-ce que si on prolonge le port d'un soutien-gorge plus modèle sportif, est-ce qu'il y a des... c'est quoi les contre-indications, en fait? Qu'est-ce qui peut survenir?
Bien, c'est parce que le soutien-gorge port, comme je vous disais, il y a une certaine compression qui se fait. Ça, c'est pas bon au niveau
ça,
du sein.
Ça, c'est pas bon non plus.
Ben non, toujours avoir le sein compressé, c'est pas bon non plus. Fait que c'est sûr que c'est toujours mieux de faire le sport qu'on a à faire, puis après ça, on l'enlève, puis on met un soutien-gorge régulier avec une bonne armature, mais bien ajusté.
Encore une fois, tout est une question d'ajustement.
Exact.
Est-ce que y a d'autres personnes qui font appel à vos services? Je pense à peut-être plusieurs de mes amis qui sont de nouvelles mères. Mm-hmm. Parfois, même se remettre d'un accouchement, ça peut être quelque chose de difficile. Est-ce que vous avez eu des demandes de ce côté-là?
Oui, j'en ai eu parce que les femmes, lorsqu'elles ont accouché, c'est sûr que là, il y a la montée de lait, tout ça. Ensuite, il faut revenir au soutien-gorge le plus tôt possible si on a fini d'allaiter pour que le sein reprenne sa forme. Fait que c'est sûr que de temps en temps, j'ai des femmes qui m'appellent parce que bon, sont prêts avec le bébé à la maison puis ils veulent pas venir en magasin avec le bébé. Des fois, c'est trop compliqué. Mm-hmm. Donc, je me rends à domicile et je fais aussi l'ajustement du soutien-gorge après l'accouchement. Et ça peut être aussi des gens, des fois, j'ai vu même des showers de bébé ou encore une femme qui est pour se marier. Les filles lui font un shower, un party d'enterrement de vie de fille, si on veut. Et il me demande pour aller ajuster la personne. On fait un genre de petit party, puis c'est super agréable. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire.
Ça peut être amusant, finalement.
C'est pas
seulement une tâche à inclure dans ses occupations, dans son quotidien, pour s'assurer d'avoir le bon vêtement. En terminant, je pense à de nos auditrices, si on veut faire affaire avec vous, oui. Si on veut connaître vos services, comment on fait? Comment on vous contacte? Est-ce qu'il faut passer? Comment est-ce que les clientes arrivent à vous? Est-ce qu'elles sont référées la plupart du temps ou elles vous contactent directement?
Je vous dirais qu'elle me contacte directement parce qu'il y a eu beaucoup de publicité qui s'est fait. Là. On a fait que presque tous les journaux de la région, lorsqu'on a fait le communiqué de presse, j'ai eu beaucoup d'appels là, de journalistes, tout ça. Ça a fait boule de neige. Mais ils peuvent me rejoindre sur mon cellulaire au 819-696-4907 ou encore on a une page Facebook qui s'appelle Ajustez-moi. Et aussi par la page Facebook de Boutique Belle de Nuit, Belle de Jour, il y a les coordonnées aussi pour Ajustez-moi. Et on est aussi dans les pages jaunes sur Internet, sur Ajustez-moi toujours. Fait qu'il y a beaucoup de... On a une boutique en ligne aussi, boutiquebelledenuitbelledejour.com, qu'on a aussi les coordonnées d'Ajustez-moi. Fait que je pense qu'il y a... Les gens peuvent me trouver de différentes façons. Là.
On va vous trouver et pour le moment, on le rappelle, le service est disponible en Mauricie. Peut-être qu'en en vous entendant, ça va donner l'envie à d'autres femmes dans d'autres régions du Québec de développer ce service-là aussi. Annie Hardy, vous êtes fondatrice et propriétaire de Ajustez-moi. Merci beaucoup d'avoir partagé cette initiative. Je rappelle que vous êtes notre coup de chapeau cette semaine.
Bien, merci beaucoup. Puis aussi, on peut communiquer avec moi pour donner des conférences. Ça arrive aussi que je donne des conférences, soit dans des boutiques de prêt-à-porter ou encore des conférences dans des organismes. Je donne aussi des conférences, là. C'est super, super le fun. Puis on peut faire aussi des conférences mode avec des filets de mode inclus.
Et justement, inclus aux besoins. Oui. Génial. Merci beaucoup de vous préoccuper de la santé des femmes comme vous le faites.
Bien, merci beaucoup.
C'est ce qui met fin à notre programme. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain pour une autre émission spéciale Coup de chapeau dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Je remercie tous mes invités ainsi que mon équipe technique, à la mise en onde Jean-Sébastien Laliberté, à la recherche et aux médias sociaux Christiane Campagna. C'était Maxime Despomerleau pour Ça vaut le détour. À bientôt.